Les Malvoisins, c'était une troupe de théâtre. C'est une troupe de théâtre de Port-en-Truy qui est née, à l'origine, c'était une troupe catholique. Puis ensuite, Pablo Cuta s'est mis en scène. Il a mis en scène des textes de Molière. Et les Malvoisins ont eu une vie un peu particulière parce que très tôt, on a abandonné le théâtre pour des récitals de poésie parce qu'on était en effervescence jurassienne.
Ce virage vers la poésie ne vient pas tout à fait aussi de nulle part. Il y a une prise de conscience qu'il y avait une poésie, aussi une littérature jurassienne.
Oui, alors à cette époque, dans les années, je dirais dans les années 60, il y avait à Port-en-Truy un jeune homme qui était André Bis, qui avait créé les soirées poésie. Et chose curieuse, les Malvoisins, évidemment, y participaient. On assistait à ces séances en lisant des textes. Donc chacun apportait un texte qu'il avait envie de lire. Et là, on a découvert des auteurs français, en particulier les auteurs de la Résistance, et c'était une découverte considérable. Et c'est, je pense que c'est, les soirées poésie ont été à l'origine d'un mouvement beaucoup plus large, c'est-à-dire qui a engagé les Malvoisins à considérer que la poésie pourrait avoir un effet considérable sur les consciences. Hein. Donc, quand on s'engageait en faveur de la création du canton, les Malvoisins étaient constitués de gens qui voulaient la liberté. Donc ils voulaient revenir sur l'arbitraire de 1815. Et à côté de ça, il y avait ceux qui souhaitaient quand même le pouvoir, hein, créer un canton et avoir le pouvoir. Donc l'objectif des Malvoisins, c'était un objectif purement culturel, c'est-à-dire que démontrer que le Jura avait une histoire. C'était un peuple reconnu en 1950 et que ce peuple, pour constituer un État, avait une histoire commune. Et cette histoire a été démontrée par l'anthologie en 1964. Et les Malvoisins se sont transformés à ce moment-là en troupe, une troupe qui allait d'un village à l'autre présenter des œuvres de poètes.
Une autre étape importante, 1966, la création des éditions des Malvoisins, où là vous êtes plus contenté de lire des textes en public, mais vous les avez édités, et des auteurs de la région évidemment, hein, Jean Cuta et puis ensuite Alexandre Voisard. Cette maison d'édition des Malvoisins, elle a eu aussi une importance considérable.
C'est-à-dire que les soirées poésie se terminaient aux Trois Tonneaux. Et puis, Jean Cuta était rentré de Paris et puis était venu à une soirée poésie. Il avait une voix magnifique. Il était un lecteur extraordinaire. Et il nous a lu La Corrida. Et à la suite, le soir même, on prenait un pot devant les Trois Tonneaux. Et avec le professeur Gruning, on se dit, mais c'est un texte qui devrait être publié. Et les éditions des Malvoisins ont commencé comme ça. Moi, j'ai proposé à Pablo de dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas publier ce poème de ton frère qui est extraordinaire? Évidemment, la corrida, pour nous, on l'a transposé dans l'affaire jurassienne. Hein. Quand on tuait le taureau, on voit bien quel était l'objectif pour nous. Hein. Et Jean Cuta était d'accord et on a publié ce texte. Par la suite, on a continué à alimenter les soirées poésie. Et puis, un jour, en 66, Alexandre Voisard vient me trouver avec le manuscrit de Liberté à l'aube.
Alors Liberté à l'aube, hein, c'est un moment phare dans l'histoire de la littérature jurassienne autour de ce combat jurassien. Votre réaction quand il vous a présenté le manuscrit ?
Quand il nous a présenté ce manuscrit, c'était vraiment un bonheur incroyable. On n'avait jamais lu ça. On avait lu un texte Noël d'Ajoie de Jean Cuta qui parlait de la région, mais ici c'était un texte de poésie politique. À ce moment-là, on le prenait dans ce sens-là. Aujourd'hui, je considère que Liberté à l'aube est un texte qui va beaucoup plus loin que simplement un texte politique destiné à convaincre des jurassiens de se séparer de Berne. Mais ce texte était d'une beauté, d'une efficacité incroyable. Alors, dans les récitals de poésie, quand Alexandre Voisard récitait des passages de Liberté à l'aube, les larmes coulaient aux yeux des gens. Vous comprenez, notre problème à nous, c'était la liberté. Et ce n'était pas la conquête du pouvoir d'un canton. Donc les gens, quand ils entendaient ça, ils entendaient des textes de liberté. Donc on pouvait rassembler tous les courants, parce qu'on ne faisait pas de politique politicienne. Ce que je ne suis pas contre, hein, mais on ne faisait pas cette politique-là. Pour nous, c'était l'objectif, c'était la liberté, revenir sur l'arbitraire 1815. Et par conséquent, les gens étaient sensibles à cette manière d'être. Hein.
Précisément, « Liberté à l'aube », l'un des poèmes de ce recueil, « L'aude au pays qui ne veut pas mourir », a été lu par Alexandre Voisard à la tribune de la Fête du Peuple en 1967. 40 000 personnes ont repris ces mots, rouges d'impatience, blancs de courroux. Vous avez vécu ce moment, qu'est-ce que vous en gardez ?
C'était un moment probablement extraordinaire que sur une tribune politique, un poète arrive et récite son poème. Mais il était, comment je veux dire, il était tellement... Les gens étaient tellement sensibles à ce discours-là que bon, c'était un moment de vrai bonheur pour les Jurassiens. C'était plus de la politique. C'est ça que je veux dire. C'était vraiment créer un mouvement de liberté. Oser dire on veut former quelque chose pour être libre. C'était ça. Alors c'était la voie la plus extraordinaire pour le dire.
Il y a cette imbrication entre la culture et la politique qui se manifeste tout au long du combat jurassien. Vous-même, vous en êtes l'illustration, parce que vous êtes fondateur des éditions Les Malvoisins, mais vous avez aussi eu des responsabilités politiques au Rassemblement jurassien. Les liens entre l'ERJ et le monde de la culture, les Malvoisins ou d'autres, c'était un lien qui existait. Il était formel ou informel ?
Je pense qu'un des éléments importants de Liberté à l'aube, c'est que Alexandre Voisard l'a soumis à Chapa. Chapa avait des entrées non seulement dans le Valais, mais également à Lausanne et auprès des journalistes. Donc c'était déjà un écrivain reconnu et Chapa a écrit des articles vraiment magnifiques en ce qui concerne le Jura et Liberté à l'aube. Il a d'ailleurs fait une introduction qui est superbe. Et ce mouvement libertaire, oui, libertaire, on peut dire ça, hein, a été la courroie de transmission par les écrivains que connaissaient Pablo Cuta, Jean Cuta, Alexandre Voisard. Ça s'est développé en Suisse romande, sous la férule de Galland et des journaux. Alors les journaux lausannois et genevois ont pris des positions qui étaient extrêmement claires. Donc on a eu le sentiment que nos écrivains avaient conquis le cœur des écrivains romands. Et la plupart de ces écrivains sont devenus des gens qui ont eu une importance considérable. Ce n'est pas les seuls, hein, ce n'est pas eux qui ont créé le Jura, mais c'était des voix importantes dans les journaux romands.
Quelque part, cet objet littéraire, Liberté à l'aube, il est aussi devenu un manifeste à vous entendre, pas seulement pour les Jurassiens, mais aussi pour mieux faire connaître à l'extérieur la lutte des Jurassiens.
Oui, c'était surtout probablement un des rares textes considérés comme politiques. Maintenant, quand je le relis, je dis que c'est plus important que simplement le problème jurassien, parce qu'il est universel, c'est une voix quasi universel. Mais à ce moment-là, c'était vraiment une voix, c'était l'importance du verbe. Alors, je crois qu'on ne s'est jamais aussi bien rendu compte de l'importance du verbe, qui avait une influence considérable sur les gens. Et que la poésie soit à la fête du peuple, soit dans les arrières-salles des bistrots des villages jurassiens, c'était extraordinaire. Ça n'existait pas en Romandie. Et les écrivains romans, ils n'étaient pas jaloux, mais ils considéraient que la littérature devenait enfin quelque chose de populaire qui pouvait avoir une influence importante, même politique.
Et eux-mêmes, ces écrivains romans, devenaient quelque part un petit peu les avocats sur leur terre de la cause jurassienne.
Oui, c'est sûr. Les relations entre les écrivains jurassiens et les écrivains romans, ces relations ont été très denses à cette époque. Mais c'est surtout leur influence auprès des journaux romans. C'est les journaux romans qui relayaient au fond la parole de ces des Chessais, des Chappas, des Corinabiles, des Bourgeaux, etc. De ce côté-là, ça a été relativement important. On ne faisait pas de politique, hein, mais c'était quand même quelque part de la politique. Mais ce n'était pas de politique politicienne pour atteindre le pouvoir. Ce n'est pas ce qu'on cherchait. On cherchait simplement à convaincre les Romands, puis les Suisses, qu'il fallait réparer ce qui avait été absolument arbitraire en 1815, et qu'on avait un peuple qui avait une histoire. Un État est constitué d'un peuple, mais ce peuple doit avoir une histoire commune. Il faut aussi rappeler ça. Et 64, c'est Pierre-Olivier Walser sort l'anthologie jurassienne, et l'anthologie jurassienne démontre que le Jura a une histoire, que l'évêché de Bâle a une histoire. Donc, ce peuple reconnu en 50 avait sa propre histoire, donc était capable de créer un État, d'où la grande idée, la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, pour nous, on avait deux points. 1815, réparer l'arbitraire, et puis un peuple qui avait le droit de disposer de lui-même. On n'allait pas au-delà.
Vous parlez de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ça tombe bien. En tant que responsable du RJ, vous avez participé à cette fameuse assemblée des délégués de mai 1974, où le Rassemblement jurassien décide finalement de jouer le jeu, hein, de la logique des plébiscites en cascade. Vous-même, ce n'est pas une position que vous avez soutenue.
C'est-à-dire que, bon, on ne s'est pas opposé formellement, on a simplement voté contre, on n'était pas nombreux, on était quatre. Mais on partait de l'idée suivante. La cascade pouvait séparer le Jura en deux. C'est vrai que le Juracide avait une longue histoire avec Berne. Par conséquent, on avait le sentiment, si on crée un canton du Nord, ce serait l'Irlande, c'est-à-dire qu'on n'aurait plus jamais l'ensemble de l'évêché de Bâle, quoi. Donc, on était jeunes, on avait le temps, on avait encore le temps de lutter des quelques années. C'était très court, 47-74, c'est pas très long, hein. D'autant plus que ça a pris une forme importante, un mouvement important à partir des années 50, hein. Fin des années 50, je dirais. Je crois que le Rassemblement jurassien a été influencé par ceux qui voulaient à tout prix créer un État. Béglin, au départ, il n'était pas d'accord. Moi, je pensais que Furgler, qui a accepté dans une démocratie, dans la démocratie suisse, accepter qu'on puisse revenir sur un vote majoritaire, on n'avait jamais vu ça. Je veux dire, ça c'était vraiment. Je pense que ces votations en cascade, je ne suis pas sûr qu'on n'aurait pas pu admettre que c'était anticonstitutionnel. Je ne sais pas, mais j'imagine.
Vous aviez vu finalement, mais comme d'autres, hein, que ce principe des plébiscites en cascade, vu la situation politique de l'époque, allait mener à l'éclatement, hein, du Jura. Roland Béglin l'avait évidemment lui aussi perçu, mais il y avait aussi peut-être quelque part une pression des militants qui voulaient parvenir à un résultat, à une perspective.
Oui, je pense que les militants disaient, si on peut déjà former un canton avec le Nord, on pourra toujours tenter de réunir le Sud. Ce qui paraît quand même un peu compliqué. Moutier, bon, bah, être réuni au canton, c'est magnifique, mais je ne suis pas sûr qu'il y aura beaucoup de suite. Il y aura beaucoup de communes du Jura Sud qui vont se rattacher au canton du Jura. Je ne suis pas très sûr. Donc, je pense que la séparation en deux, elle est faite pour longtemps.
La journée même du 23 juin, l'attente des résultats, le oui qui sort, on ne va pas dire à la surprise générale, mais peut-être quand même à la surprise de beaucoup de gens. Comment vous avez vécu cette journée-là avec quand même derrière la tête cette idée que le Jura allait éclater, ou est-ce que c'est la joie qui avait pris le dessus ?
Ben, écoutez, on pensait que des efforts plus importants auraient pu être faits dans le Jura Sud par des partis qui étaient anti-jurassiens, je dirais peut-être ici, peut-être le Parti radical, qui ont ensuite joué le jeu. Alors on ne peut pas dire que les radicaux, le canton constitué, ont vraiment joué le jeu, la défense des intérêts de ce canton. De ce côté-là, il n'y a pas matière à discussion. Mais à ce moment-là, on aurait pu imaginer qu'on tenterait de convaincre le Sud de se rattacher au Nord et de ne pas accepter la séparation. Ça n'a pas été fait, je pense que ça n'a pas été fait. C'était probablement perdu d'avance.
On parle de culture, on parle de poésie. Le 23 juin, la fameuse phrase de Roger Schafter, « Il pleut la liberté », on est typiquement là, à cette intersection entre la politique et la poésie, c'est une phrase poétique.
Oui, c'est juste. Bon, Schafter, c'était vraiment la voix du Jura. C'était celui qu'on lisait dans le Jura libre. C'est Pertinax magnifique. Il avait les images qu'il fallait. Et au bon moment, c'est vrai qu'il pleuvait la liberté. Pour nous, c'était magnifique. Je veux dire, on arrivait à quelque chose. Même si ce n'était pas l'ensemble de l'ancien évêché de Bâle, la perspective était de créer un canton. Peut-être un canton un peu différent des autres cantons. Ça reste à démontrer, mais on était très heureux. Je veux dire, c'était un vrai bonheur. Même si on aurait bien poursuivi encore quelques dizaines d'années, parce qu'on était relativement jeune à cette époque, hein.